Dans ce journal, on s'intéresse au grand chantier du port autonome. On fait aussi une belle page culture avec du chant et du théâtre. Et puis on termine par du surf. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On parle de grands chantiers pour commencer.
Oui, ceux du port autonome. Alors que le nouveau terminal de croisière est sur le point d'être livré, des ouvriers s'activent aussi de l'autre côté de la rade de Papeete sur le chantier du quai au long cours. L'approfondissement et la solidification de ce quai où sont déchargés tous les conteneurs du Fénois a pris du retard, mais la première phase devrait être livrée fin juin. Restera à rénover l'autre moitié du quai et à recreuser la passe pour accueillir à terme des plus gros cargos. Un appel d'offres devrait être lancé sur le sujet dans l'année pour un passage des dragues en 2026. Alors ça ne sera pas la fin des travaux, hein, loin de là. Le port veut ensuite lancer la construction du quai numéro 6 pour accueillir des bateaux comme l'Aranui ou son futur sister ship l'Aranoa. Côté terre, c'est la zone du terminal de commerce international qui doit être étendue, quitte à déloger plusieurs entrepôts de Motuhuta. Les précisions du directeur du port autonome, Jean-Paul Lecaille.
Si on ne fait rien, cette zone, dans les prochaines années qui viennent, sera saturée. Donc, il faut trouver de la place. Et la place, c'est d'étendre la zone vers des bâtiments qui, aujourd'hui, sont essentiellement consacrés à faire du stockage. Je pense que le stockage commercial, il faut qu'il se fasse en dehors du port. Donc, effectivement, il faut agrandir un peu la zone du terminal de commerce pour que, dans les 20 prochaines années, on n'ait pas de problème de stockage ou même de travail à l'intérieur.
Gagner de la place, voilà donc l'idée fixe de la direction qui est prête pour se faire à déménager ses propres locaux. Direction l'ancien site de la Sopom de l'autre côté du pont de Motuhuta. Les douanes et les affaires maritimes devraient aussi être déplacées pour rendre les quais aux armateurs. Beaucoup de mouvements, beaucoup de travaux et une enveloppe totale de 26 milliards de francs dont 40% sont déjà financés. Pour le reste, Jean-Paul Lecaille assure que l'établissement a des capacités d'autofinancement d'autant qu'il devrait revoir les tarifs de ses locations dans les prochains mois. Pour le directeur, la modernisation de ce poumon économique du Fénois passe aussi par la création d'un pôle de réparation.
Il y a une petite activité qui est Technimarine qui fait de la réparation navale. Il y a une autre petite activité qui est la cale de halage qui date quand même des années 47. Hein. Ce sont des outils qui sont quand même aujourd'hui un peu dépassés. Sur le plan technique, ils ont des capacités limitées. Notre cale de halage, c'est 800 tonnes, c'est pas gros. Et puis sur le plan de l'environnement, puisque le traitement des déchets date d'une vieille époque. C'était pas à l'époque où on était très sensible à tous les problèmes de pollution. Donc il faut créer un nouvel outil.
Voilà, un pôle de réparation donc que le directeur voudrait voir naître autour des cales de halage actuelles et à la place des cuves d'hydrocarbures qui doivent, quoi qu'il arrive, être démantelées. Celle de Fareute en tout cas, puisque du côté de la digue de Motuhuta, les cuves de gasoil et les boules de gaz sont bien là et de nouvelles structures sont même en chantier pour Petropol ou Gaz de Tahiti. Et pourtant, Jean-Paul Lecaille estime qu'il faudra bien au très long terme réétudier la présence des pétroliers sur le port, encore une fois pour gagner de la place mais aussi pour des raisons de sécurité.
On a tous en tête l'accident qu'il y a eu au Liban. Régulièrement, quand même, certaines personnes attirent l'attention sur le risque que présentent les dépôts d'hydrocarbures dans l'axe de la piste. Donc c'est sûr qu'un jour, il faudra étudier ce problème de déplacement des hydrocarbures qui n'ont pas besoin d'être sur le port du Papeete. D'ailleurs, il y a déjà un industriel qui met des hydrocarbures, enfin du gaz, en dehors du port du Papeete parce qu'il n'a pas eu la place.
Jean-Paul Lecaille, le directeur du port autonome, il était au micro de Charles Irénée. Une interview à retrouver en intégralité sur radio1.pf.
Politique, la passation de pouvoir a eu lieu au ministère des Outre-mer.
La nouvelle ministre déléguée Marie Guévenoux a pris ses fonctions ce vendredi matin à Paris. Elle succède à Philippe Vigier qui est resté en poste 6 mois et elle est la 4e à occuper ce poste en seulement 20 mois. Celle qui était députée et questeur de l'Assemblée nationale s'est dite à l'écoute et effectuera son premier déplacement à La Réunion et à Mayotte, puis en Nouvelle-Calédonie avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Pas d'informations en revanche sur un éventuel déplacement au Fénois qui devrait toutefois accueillir une autre ministre, celle des Sports et des Jeux Olympiques Amélie Oudéa Castéra qui est attendue pour la Tahiti Pro en mai.
On vous a parlé d'une entrée en fonction, on vous parle désormais de la fin d'un règne.
Ah oui, c'est une information de nos confrères de Tahiti Info qui nous apprennent ce matin le décès du roi autoproclamé des Pakumotu, Athanas Tairi. Celui qui revendiquait un état souverain avec quelques dizaines d'adeptes était notamment connu pour ses coups médiatiques, tantôt farfelus, tantôt inquiétants, et ses incursions dans la rubrique des faits divers. Il avait notamment tenté de prélever des impôts, menacé des policiers avec des armes à feu ou encore mis en circulation des faux billets. Tahiti Info nous précise que son décès est survenu le 29 janvier a encore créé du remous puisque sa famille souhaitait l'enterrer dans la maison qu'il squatte à Taonoa. La commune de Papeete a donc été contrainte de prendre un arrêté d'inhumation d'office et le roi a donc été enterré par les agents municipaux hier au cimetière de l'Uranie.
On chante maintenant avec le concours Voix des Outre-mer.
La finale de la 6e édition est prévue le 23 février à Paris dans l'auditorium de l'Opéra Bastille. Ce concours, pour rappel, a pour objectif de mettre en lumière les talents lyriques originaires des territoires ultramarins. Et c'était Eyari Bouzi qui avait remporté la finale polynésienne. Il sera donc engagé dans le concours en solo, mais se produira aussi avec son groupe Bel Canto Tahiti, invité à interpréter un titre en réo lors d'un intermède. L'objectif, c'est de promouvoir le chant tahitien avec des techniques de lyrique classique et de démocratiser le chant lyrique. Mehimiti Ladouar, membre du groupe, explique que la langue tahitienne se prête bien justement au chant lyrique.
La langue tahitienne a beaucoup de voyelles et donc pour le chant c'est super parce que la voix peut vraiment sortir et elle a maintenant aussi des consonnes assez fortes. Donc pour la projection du texte, pour la compréhension, ça se prête bien au lyrique en tout cas. Et, par exemple, plus dur de chanter en français en lyrique qu'en italien ou en allemand et le tahitien serait plus d'aisance justement à faire sonner les mots, faire comprendre, entendre. Mais en fait, il faut juste apporter une technique lyrique et tout sonnera classique.
Et le groupe Bel Canto compte aussi dans ses rangs la chanteuse Laetitia Julien. Elle avait d'ailleurs gagné le concours en Polynésie il y a 3 ans. Elle nous raconte comment s'est formé ce groupe.
Bel Canto Tahiti est né en juillet 2023. Mais à la base, c'est un projet porté par Gabriel Cavallo, notre professeur de chant qui est décédé en 2021, qui avait pour objectif de promouvoir le bien chanté et surtout d'exporter le reo maohi dans l'opéra. Donc là, à ce jour, on est 9 artistes, incluant notre pianiste. Tous les chanteurs qui veulent rentrer dans ce groupe-là, on est bien sûr ouverts. Donc il y a cet esprit du bien chanté et cet amour pour le classique.
Alors le groupe a donné des concerts près d'une fois par mois jusqu'à la fin de l'année 2023, mais il a désormais des projets de plus grande ampleur comme un grand récital au Petit Théâtre de la Maison de la Culture ou encore l'enregistrement d'un titre et d'un clip. En plus de leur intermède prévu au concours, Bel Canto se produira aussi à la délégation de la Polynésie à Tahiti lors de leur voyage en métropole.
On reste sur la culture avec ce projet de spectacle.
Oui, ou plutôt de pièces de théâtre portées par la Maison de la Culture qui a la mission de célébrer Henri Hirault toute l'année. Alors quoi de mieux pour cela que de le faire revivre au travers de ses œuvres. C'est en tout cas ce que le monde de la culture tente de faire 34 ans après sa disparition. Et donc parmi les projets prévus cette année, proposer aux Polynésiens la première pièce de théâtre écrite par l'homme de culture. Elle s'appelle « En pleine mer » du polonais Slavomir Mrozek. Henri Hirault l'avait adaptée au public polynésien dans les années 70. Il l'avait traduite mais aussi pris la peine d'adapter les éléments de l'histoire à la culture en remplaçant par exemple la boîte de cassoulet par du Poitoro. De là est né Itei, une pièce absurde mettant en scène 3 naufragés à la dérive qui, à court de vivre, ont dû décider de qui fera office de repas. Une œuvre d'un autre temps, mais qui, selon Moanaura Teyeura, le metteur en scène, reflète encore la société actuelle. Écoutez.
Théâtre de l'absurde qui, finalement, définit bien la société, ce rapport de force entre les classes de société. Ce qui est incroyable, c'est que cette pièce, elle est faite par Henri Hirault en 1976 et les propos de cette pièce sont encore valables aujourd'hui. On est en 2024. On est clairement dans une stratification sociétale avec des classes et avec des injustices sociales.
Cette pièce se jouera donc en septembre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Reste toutefois à trouver les comédiens, ou plutôt 2 comédiens, car Tuari Traki, habitué des scènes, est déjà sur le rôle du personnage de la classe ouvrière. Moanaura, le metteur en scène, veut aussi ouvrir la scène à d'autres talents pour rester fidèle au message de l'auteur.
Henri Hirault, à travers ses écrits, on comprend qu'il choisit des personnes qui n'ont jamais été dans le théâtre. Il le dit lui-même, le Polynésien est acteur. Et j'aurais pu effectivement choisir des gens que je connais dans mon entourage, puisque je suis déjà dans le milieu. Mais partant de ce constat-là d'Henri, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de donner la chance à un plus large public. Voir qui pourrait s'intéresser à ce genre de rôle, déjà, et caster des gens.
Et le casting pour ces 2 rôles est donc prévu le 2 mars. Il est ouvert aux hommes, novices ou pas donc, mais parlant assez couramment le tahitien. Retrouvez plus d'infos dans la journée sur notre site radio1.pf.
Et pour terminer, on parle de sport puisque Wahine Fiero était notre invitée hier.
Oui, la surfeuse de Wahine qui a une grosse année et qui arrive avec plusieurs objectifs. Il y aura les Jeux bien sûr, mais son calendrier de compétition va commencer par les championnats du monde ISA. Ça se passe à Porto Rico du 24 février au 2 mars. Et c'est l'ultime étape qualificative qui pourrait permettre de renforcer la sélection française en vue des Jeux Olympiques. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette même compétition au Salvador l'an dernier que la Tahitienne avait décroché son ticket pour les JO, Kaolivas l'avait aussi fait chez les garçons. Et du côté des femmes, la France peut encore obtenir une troisième place, puisque selon Vaine Fierro, il faut qu'une Française parvienne à se hisser sur la première marche du podium.
J'y vais pour gagner l'or, pour pouvoir apporter une troisième place pour une troisième femme dans notre équipe. Donc c'est aussi important que si je devais me qualifier pour les Jeux Olympiques. Et j'y vais aussi pour passer mes séries, les gagner, avoir des bonnes stratégies et me remettre dans le bain pour cette année.
Un premier objectif étroitement lié au deuxième que s'est donné la surfeuse, briller à domicile en juillet à Tehuapo. Et à 5 mois de l'échéance, l'équipe de France s'entraîne de plus en plus fréquemment. Elle est notamment coachée par Ira Terina Toofa, le Polynésien, et managée par l'ancien surfeur pro Jérémy Flores.
En ce moment, on a beaucoup travaillé le niveau technique de notre surf. Donc chacun a des points à améliorer, des nouvelles figures à essayer. Et aussi, en même temps, on s'entraîne à faire des séries de compétitions en entraînement pour pouvoir garder ce côté vif, ce côté agressif.